Donc, notre texte de ce matin parle, si vous connaissez un petit peu le Nouveau Testament, votre Bible, des viandes sacrifiées aux idoles, les viandes sacrifiées aux idoles. Et en revenant à la maison, peut-être si votre conjoint vous demande, alors, de quoi vous avez parlé, qu'est-ce que c'était le message à l'église ce midi? Ça, c'est des super questions. Et vous allez répondre peut-être, ah, Pascal nous a parlé des viandes sacrifiées aux idoles. Bon, ça va pas être une bonne connexion, hein. Ou bien, on vous demandera peut-être au travail, quand vous arriverez lundi, alors qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Et si vous dites, ben, on a appris des choses sur les viandes sacrifiées aux idoles dans mon église, ah, ça va pas bien faire de bonnes connexions. Mais si vous dites plutôt, l'apôtre Paul a constaté que la connaissance nous émancipe, mais que malgré cela, avec cette connaissance, on peut faire du mal à notre prochain. Et il a expliqué comment éviter cela, comment éviter que la connaissance qui normalement rend libre peut faire du tort à notre prochain. Si vous dites, présenter les choses comme ça, peut-être ça va plus intéresser, hein, ça va être plus connecté à quelques sujets de philosophie du bac, par exemple, ou autre. Hein. Je vais lire donc les premiers versets, jusqu'au verset 3, parce que Paul fait un petit préambule là. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons tous que nous avons de la connaissance. La connaissance gonfle d'orgueil, mais l'amour construit. Si quelqu'un pense connaître quelque chose, il ne connaît pas encore comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Donc, d'abord ce petit préambule sur ces questions de viande sacrifiée aux idoles, donc. Quand l'apôtre écrit, si quelqu'un pense connaître quelque chose, c'est sous-entendu avec les... Si quelqu'un pense connaître parfaitement quelque chose, il ne connaît pas encore comme il a... C'est difficile à rendre en français. Alors, la connaissance en soi est bonne. L'apôtre Paul est un enseignant. Il enseigne les églises. Et donc... communiquer de la connaissance, des connaissances spirituelles, ça fait partie de son ministère. Donc, certainement, la connaissance est toujours une bonne chose. Hein. Et dans le monde séculier, c'est reconnu aussi. Hein. Vous savez, la soignante Virginia Anderson a dit qu'elle a mis la connaissance, ça, pouvoir apprendre comme un besoin fondamental. Pour l'homme, il doit avoir la possibilité d'apprendre. Et cette connaissance devrait conduire à l'humilité, normalement. Mais hélas, ici, on voit que chez les Corinthiens, cela conduit plutôt à l'orgueil. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, en effet. Quand on cherche à apprendre les choses, eh bien, chaque fois, on s'aperçoit que chaque fois qu'on pense avoir quelque chose, mais il y a d'autres questions qui arrivent derrière. Et c'est quelque chose qui ne finit pas. Et l'apprentissage de connaissances nous apprend finalement surtout l'humilité. Elle devrait nous apprendre l'humilité, mais souvent elle nous conduit à l'orgueil. C'est ce que va développer Paul. Et, ou alors à la dépression parfois. Hein. L'Ecclésiaste, un des plus grands sages, hein, de tous les temps, il a écrit ceci, hein, Ecclésiaste 1:10. Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science, augmente sa douleur. Et pourtant, la connaissance, la vraie connaissance, elle nous échappe. Elle nous échappe finalement. Connaissez-vous cette chanson de Jean Gabin, qui, je sais, alors ça date du, non pas des années 80, mais des années 50. une vieille chanson, c'était un grand acteur, très célèbre, très connu, et de son temps, il a eu tout ce qu'il pouvait désirer dans la vie. Jean Gabin. Et à la fin, quand il arrivait à 60 ans, il a écrit ce poème. Où il dit, quand j'étais enfant, je disais toujours, je sais, je sais. Je pensais tout savoir. Et puis quand j'étais un petit peu un jeune homme, Là aussi, je pensais tout savoir de la vie, de l'amour. Je disais, je sais, je sais. Puis quand j'ai mûri, je me suis aperçu que plus je cherchais et moins je savais. Et à 60 ans, donc, il dit, maintenant je sais une chose, je sais que je ne sais pas. Et il parlait là, non pas des mathématiques, mais de la vie, de l'amour, de l'argent, les amis, les roses, il le définit comme ça. Et notre dans notre Bible, l'Ecclésiaste accrédite tout ça. Il a constaté lui-même, même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. La vraie connaissance nous échappe. La vraie connaissance, Paul le sous-entend dans ce texte, est une relation avec Dieu. Dieu intervient là-dedans. Celui qui aime Dieu est connu de lui. Je pourrais avoir la science de tous les mystères et la connaissance. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, va déclarer l'apôtre Paul un petit peu plus tard. Et Jésus, lorsque les disciples revenaient tout joyeux, ils avaient donné le pouvoir de chasser les démons, et il leur répond ceci, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans les cieux. La vraie connaissance est intimement liée à la personne de Dieu. Alors, voyons la suite de notre texte maintenant. Verset 4. Donc, reprend l'apôtre. Pour ce qui concerne la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car il est vrai qu'il y a ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre. Et de fait, il y a beaucoup de dieux, beaucoup de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu et Père, de qui tout vient et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et pour qui nous sommes. Mais tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns, encore, tenus par l'habitude des idoles, mangent de ces viandes en les considérant comme sacrifiées aux idoles. Et leur conscience, qui est faible, en est souillé. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de moins. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Et si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Prenez garde cependant que votre droit ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, à table dans un temple d'idoles, la construction de sa conscience ne va-t-elle pas l'amener, lui qui est faible, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi le faible se perd à cause de ta connaissance. Lui, ce frère pour qui le Christ est mort, en péchant de la sorte contre le frère et en heurtant leur conscience qui est faible, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment doit causer la chute de mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande afin de ne pas causer la chute de mon frère. Les viandes sacrifiées aux idoles au premier siècle, il s'agissait de quoi ? La consommation de viande, pour nous qui sommes dans un pays nanti, on a du mal à concevoir que c'était un luxe au premier siècle. C'est aussi un luxe dans de nombreux pays de la Terre, hein. Mais c'était un luxe à ce moment-là, au premier siècle. Pour le commun des mortels, c'était quelque chose qui était cher et c'était quelque chose qu'il était difficile de conserver. Il n'y avait pas de frigo, pas de congélateur. On pouvait bien faire sécher la viande ou la saler, mais c'était pas le goût du barbecue, hein, qu'on retrouvait quand on l'a préparé. La viande fraîche, fraîchement cuisinée, était quelque chose qui était rare et cher. Comment faire ici dans les campagnes, avant qu'il y ait les congélateurs, les paysans ils tuaient le cochon et puis vous savez, quand on tue un animal, ça fait beaucoup de viande qui arrive d'un coup. Et comment faire? Ah ben, il y avait une solution qui consistait aussi à la distribuer autour de soi. On faisait venir les voisins, les amis pour préparer l'animal, et puis après, chacun repartait avec un plat de fritons, hein, c'était excellent et succulent, et puis c'était organisé, chacun tuait le cochon à un moment différent, ce qui fait que pendant l'hiver, pendant les 2 mois d'hiver, là, on avait de la viande régulièrement. Au premier siècle, ça devait être certainement aussi un problème de ce type-là. Consommer de la viande était un luxe. Les temples étaient un lieu de sociabilisation. Il n'y avait pas de salle municipale à ce moment-là. Quand on voulait faire une fête, quand on voulait fêter un événement quel qu'il soit, eh bien, le seul endroit où on pouvait aller, c'était au temple. C'était prévu pour ça. Il y avait de la place, il y avait une structure, il y avait tout ce qu'il fallait pour mettre des tables, pour préparer des plats, pour manger ensemble. C'était les salles municipales de l'époque, c'était dans des temples d'idoles, un lieu de sociabilisation. Quand on voulait faire une fête, donc il y avait des temples pour tous les goûts, pour toutes les situations, et donc on prenait son animal, on allait, les prêtres le prenaient en charge, une partie était offerte au dieu que l'on voulait honorer, une partie donc était brûlée, une partie était réservée pour les prêtres qui faisaient le travail, et une partie était réservée pour celui qui offrait l'offrande, et avec toute cette viande qui était là, eh bien, on allait pouvoir faire un repas et inviter les convives pour prendre et faire un banquet. Alors, les prêtres, bien sûr, ils avaient, eux, beaucoup de viande, donc ce qu'ils faisaient, ils la revendaient au marché. Donc on trouvait aussi dans les marchés de la viande qui venait des sacrifices aux idoles. Et ça posait, bien sûr, tout ça des problèmes pour les chrétiens, vous le comprenez. Mais si c'était une personne riche, là, qui voulait se montrer socialement, eh bien, elle amenait un gros animal, un taureau, un veau, et puis là ça fait des quantités de viande, et vraiment là il pouvait même y avoir des distributions, et voilà, même les pauvres pouvaient à ce moment-là avoir une part de viande, et tout ça, la société fonctionnait comme ça. Quand on était chrétien, bien sûr, il fallait abandonner l'idolâtrie, hein, et cela constituait un sacrifice en soi que de renoncer à tous ces, entre guillemets, ces avantages. Toutes les divinités, pour les juifs, pour les chrétiens, s'appelaient des idoles, car il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de toutes choses, qui est souverain de l'univers, à qui tout appartient, et pour le chrétien, un seul Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons toutes choses, et se prosterner devant une statue, lui faire des offrandes, revenir à violer le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pour les personnes qui se convertissaient, il se passait là une vraie rupture. Fini l'idolâtrie. Plus jamais je ne mettrai pied dans cet horrible temple d'idoles. Donc, bien sûr, plus de viande gratuite, plus d'invitations avec les amis, les voisins. Tout ça, mes amis, vous devez comprendre que je dois y renoncer. Parce que maintenant, je sers le vrai Dieu. Et bien sûr, quand les années passent, etc., on est instruit et on comprend que les idoles sont que des constructions, des fabrications humaines, tous ces pierres, ce bois, ce métal. Et finalement, si la viande a été offerte une idole ou pas, cela reste de la viande. Et il n'y a pas de raison de s'en priver, considérer certains chrétiens. En tant que chrétien, on est libre de manger toutes les viandes, parce que tout vient de Dieu de toute façon. Et toutes ces constructions et ces statues ne sont que des fabrications humaines. Pourtant, Paul s'oppose à l'idée qu'un chrétien qui a cette connaissance-là l'utilise pour s'élever au-dessus de ses frères. Toi, tu te prives de ce qui est la viande qui est distribuée dans les, quand il y a des sacrifices d'idoles, moi, ça va. Je suis libre. Hein? On est libre quand on est chrétien. Mais pour celui qui vient de se convertir, c'est tout autre chose. Hmm? Le culte qu'il rendait aux idoles est tellement proche de lui. Et pour Paul, c'est gravement péché que de choquer ainsi les jeunes convertis. Ils sont fragiles et ils peuvent retomber dans l'idolâtrie. Et par amour pour ses frères et sœurs, Paul est prêt à ne plus jamais manger de viande de sa vie. Hein? Il ne fait pas un ordre de cela. Le chrétien est vraiment libre de manger les viandes sacrifiées, car les idoles sont que des fabrications humaines. Mais il y a un mais et une limite à cette liberté qu'il pose clairement ici. Alors ça, c'était au premier siècle. Et qu'est-ce qui n'a pas changé aujourd'hui? Qu'est-ce qui est pareil pour nous aujourd'hui au 21e? Hein? Ben, l'idolâtrie existe toujours. Mais elle a pris d'autres formes. Elle a pris d'autres formes. Qu'est-ce que c'est une idole? Une idole, c'est ce qui remplace Dieu dans notre cœur. Ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Paul va développer ça un petit peu plus loin et on verra ça dans les semaines à venir. L'idolâtrie existe toujours. L'émancipation par la connaissance, c'est toujours d'actualité. Celui qui acquiert de l'instruction acquiert en même temps de la liberté. Connaître l'évangile conduit l'homme et la femme dans la vraie liberté. La vraie liberté, celle de ne pas pécher, c'est-à-dire de ne pas offenser Dieu et de ne pas blesser son prochain. Il est vrai aussi qu'aujourd'hui la connaissance seule conduit à l'orgueil. Celui qui sait quelque chose que les autres ne savent pas se sent supérieur aux autres. Hein, il développe un sentiment de supériorité. Moi je sais des choses que les autres savent pas. Et c'est une constante dans le fonctionnement de la nature humaine. Dans l'épître aux Romains chapitre 2, l'apôtre Paul parlait de ça déjà pour les religieux. Tous les humains ont aussi une conscience, c'est toujours vrai aujourd'hui, c'est le détecteur du péché. C'est ce qui en nous va nous permettre de discerner le bien et le mal. C'est elle qui lance les alertes. C'est elle, sur elle que le Saint-Esprit agit. Il doit rester en bon état de fonctionnement. Rien n'est pire que agir contre sa propre conscience. Rien n'est pire que d'être contraint contre sa conscience. On parle des objecteurs de conscience, des personnes qui ne peuvent résolument pas faire quelque chose qui est contre les convictions qu'ils ont. Et les chrétiens, quand ils démarrent dans la vie chrétienne, ils ont encore une conscience qui est fragile. Ce qui est toujours d'actualité, c'est que pécher contre son frère, c'est pécher contre Christ. Hein? Chaque fois que vous faites du bien ou du mal à un des petits parmi mes frères, c'est à moi que vous le faites. Dit, explique Jésus en Matthieu 25, 40. Ce qui est toujours valable aujourd'hui, c'est que la loi de l'amour, hein, parfois on trouve l'expression l'amour de la vérité. Jacques il dit, Paul va parler plus loin de la loi de Christ, la loi de la liberté, écrit Jacques. Cette loi-là est au-dessus de toute autre considération. C'est au-dessus de toute autre considération. Et ça n'a pas changé au 21e siècle. Comment la situation que vivaient les Corinthiens peut se produire aujourd'hui dans notre contexte? Imaginons un jeune joueur de foot dans une petite équipe rurale. Là, il y en a plein autour de nous, des villages, des villes, comme Figeac ou même plus petits, qui ont une équipe de foot. Et équipe de foot, c'est équipe de copains. Hein? Et un jeune homme qui se convertit, je l'ai appelé Max dans mon illustration. Et quand il se convertit, ce qui le passionnait hier perd soudainement toute sa saveur. Tout ce qui l'intéressait dans le foot, qui était tout à coup, il a trouvé quelque chose de tellement meilleur que ce que lui apportait le foot devient fade. Mais Max comprend qu'il doit abandonner son équipe, qui doit abandonner ses amis, car les matchs, eh ben, ça se joue le dimanche, on part le matin tôt, on revient le soir tard quand on fait des déplacements. Et puis, la troisième mi-temps, cela déplaît à Dieu ce qui s'y passe. Alors, c'est pour lui certainement un gros sacrifice, mais il aime le Seigneur et il renonce à pratiquer le sport qu'il faisait depuis toujours. Il passe par les eaux du baptême, il s'attache aux réunions de l'Église. Voilà, c'est la Coupe du Monde de football à ce moment-là. La France est qualifiée pour les demi-finales. Ouais, chouette. Et le match, il tombe quand? Ah, mercredi. Mercredi soir, quand il y a l'étude biblique. Mince. Les anciens de l'Église se concertent. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on maintient l'étude biblique du mercredi? Est-ce que les gens, est-ce qu'il y aura du monde à l'étude biblique? Ils se disent, oh, on est libre, hein? On est libre dans le Seigneur. Alors, on va annuler la réunion pour aujourd'hui, pour cette fois-ci, hein. Et puis notre jeune chrétien Max, il entend cela. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? L'étude biblique est annulée ce soir. Ben, je vais regarder le match. Et puis la France gagne. Et puis du coup, notre jeune homme, ben, allez, entraîné par ses copains, ça y est, on fait le tour de la ville en klaxonnant, tout ça. Et le dimanche, notre jeune chrétien, il est sur le stade, en train de courir après le ballon. Alors l'Église réalise cela, quel drame. Quel drame. Le pasteur Dovi m'a dit une chose, et il a dit à toute l'Église ici, il disait, c'est indispensable que l'Église participe à l'évangélisation. Tout le monde doit participer à l'évangélisation. Pourquoi? Parce que les personnes qui ne le font pas ne se rendent pas compte du prix que valent les âmes. Elles ne mesurent pas et les jeunes convertis viennent à l'Église et puis ils sont blessés et puis ils sont chassés par d'autres frères et sœurs. Conclusion. Finalement, où est la vraie idole de notre histoire? Où se cache la vraie idole? Est-ce que c'est celle qui est dans le temple, faite de bois ou de pierre? Je crois et il me semble que dans notre texte et dans mon illustration, la vraie idole, c'est la connaissance. C'est sur l'autel de la connaissance qu'a été sacrifié le chrétien faible qui était à Corinthe. C'est sur l'autel de la connaissance qu'a été sacrifié notre jeune footballeur. Et pourtant, la connaissance est bonne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la connaissance ne doit pas rester, et la liberté qu'elle apporte ne doivent pas rester un électron libre, je pourrais dire. Elles doivent être assujetties à l'amour de Dieu. Elle doit être, connaissance et liberté doivent être assujetties à l'amour, au service de l'amour, et pas, on dit dans mon métier, stand-alone, indépendant. Si vous voulez avancer plus loin dans cet enseignement ou avoir un autre commentaire, lisez l'évangile de Matthieu. Au chapitre 17, verset 24 jusqu'à 18, 11. C'est l'histoire de la du stataire, vous savez. L'impôt qui devait être donné au temple. Et là, Jésus donne une instruction à Pierre en ce qui concerne la connaissance et en ce qui concerne ne pas heurter une personne à cause de cette connaissance. Et après, il parle... je vous invite à le lire. Il parle des enfants. des petits qu'il ne faut pas scandaliser, qu'il ne faut pas faire tomber. Et il est très sévère, celui qui fait tomber un petit. Il vaudrait mieux que cette personne-là qui amène quelqu'un à chuter, il vaudrait mieux qu'on lui attache une meule autour du cou et qu'on le jette au fond de la mer. Alors, demandons et implorons le secours du Seigneur pour que vraiment on puisse grandir dans la connaissance de notre Dieu et que l'on puisse en même temps, avec cette liberté et cette connaissance que nous avons, prendre soin des personnes qui ne l'ont pas, non pas en nous élevant au-dessus d'elles, mais en les servant pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. On va prier. Seigneur notre Père, combien nous sommes ignorants de tant de choses. Mais tu es notre Père céleste et tu veux nous communiquer les choses dont nous avons besoin pour grandir, pour être des personnes libres qui ne sont pas agitées par tout courant idéologique ou tout courant de pensée ou tout système ou toute influence, qu'elles viennent des hommes ou qu'elles viennent des ennemis des hommes. Merci pour Jésus-Christ, pour l'exemple qu'il est. Lui, il savait tout, il s'est humilié et il n'a jamais, lui qui avait toute la connaissance même de la maison de son père, il ne s'est jamais élevé au-dessus de ses concitoyens. Il les a toujours servis, il les a toujours aimés. Seigneur, et merci pour ce grand exemple qu'il constitue. Il a même été jusqu'à donner sa vie. Lui qui savait tout, il savait qu'il devait donner sa vie en sacrifice. Et nous, si nous le suivons, nous l'avons déjà chanté dans notre culte. Seigneur, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Seigneur, nous voulons te donner ce que nous avons. Nous voulons te demander de veiller sur nous et de nous donner, par tout ce que nous apprenons, l'humilité, que nous ayons conscience de notre petitesse et de notre besoin d'apprendre, Seigneur, et que nous ne fassions pas du tort à notre prochain, surtout avec ces choses-là, Seigneur, mais que nous les servions. Dans le nom de Jésus, Amen.